on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bonjour 7 milliards de voisins et de voisines. La pandémie de Covid-19 a transformé nos habitudes de travail. La majorité d'entre nous avons appris à télétravailler et elle façonne aussi l'économie du travail. Le télétravail, au moins partiel, s'est généralisé dans de nombreuses entreprises. En France, selon le ministère du Travail, 24% des salariés ont télétravaillé au moins un jour dans la semaine en juin. Il y a aussi la question de la délocalisation virtuelle qui se pose. On parle même de télémigration. Cette normalisation du travail à distance risque-t-elle, comme le craignent certains économistes, de mettre en concurrence les travailleurs européens et ceux des pays émergents? Quel modèle inventer? On attend également vos témoignages, chers voisins et voisines. On vous attend au 33 7 64 45 51 et 41.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Avec mes invités, Aurélie Jantet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement. Vous êtes sociologue du travail et maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Nouvelle, auteur de « Les émotions au travail » paru aux éditions CNRS en 2018 et réédité en 2021.
Oui, c'est ça, merci.
À mes côtés également, Laurence Breton-Cueny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes DRH du groupe AFNOR et vice-présidente de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, l'ANDRH. Bienvenue.
Merci.
Tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage de Constanza, une jeune Vénézuélienne de 28 ans, titulaire d'un bachelor en langue anglaise et espagnole. À son arrivée en Espagne il y a 2 ans, Constanza a dû se contenter de petits boulots, garde d'enfants, soins aux personnes âgées, distribution de publicité dans la rue. Aujourd'hui, le développement du travail lui ouvre de nouvelles perspectives professionnelles, hein, mieux qualifiées, plus cohérentes avec son cursus universitaire, mais aussi la possibilité de quitter Madrid. Notre reporter Inès Del Garcia l'a suivi dans sa recherche d'emploi.
Moi, je vis en colocation dans cet appartement. On est 5 avec chacun un travail différent. Du coup, on ne se voit pas énormément. Ça, c'est ma chambre. Elle est plutôt confortable et spacieuse. Comme tu peux le voir, tout est décoré à mon goût. Ici, tu as mon lit, là, mes livres, mes vieux films que j'adore, mes cadres. Par ici, ma table. Et dès que je vais commencer à télétravailler, ça sera mon bureau. Je crois que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour démarrer, mais je verrai au fur et à mesure si je modifie des choses, si je change la chaise pour être plus à l'aise. J'adapterai à l'usage.
Du coup, en règle générale, c'est quoi les offres qui t'intéressent en télétravail? Tu as des exemples là à me montrer? Je vois que ton ordinateur est ouvert.
Il y a quelques jours, j'ai candidaté à un poste pour gérer des réseaux sociaux. C'est une entreprise basée à Londres qui cherche du personnel pour travailler comme community manager pour le compte d'influenceurs. D'après ce qui est indiqué, le poste a l'air très bien pour moi. Ils demandent à ce que les candidats parlent anglais et espagnol, et moi je parle anglais parce que j'ai étudié les langues au Venezuela. Du coup, j'ai une bonne maîtrise de la langue, j'ai un niveau C1 en anglais, donc je pense avoir les compétences. Reste plus qu'à attendre de voir ce que ça donne.
Aquí hay otro que es para gestión de apartamentos turísticos.
Ici, tu as une autre annonce. C'est pour gérer des appartements touristiques. C'est une offre qui vient d'une entreprise allemande qui recrute au sein de son service client pour organiser le séjour, gérer la réservation ou régler un problème que rencontre le client. Le check-in, le check-out, ce genre de choses. Ils ne demandent pas que tu vives en Allemagne, tu peux vivre en Espagne. Là encore, c'est du télétravail. La seule chose qu'ils exigent, c'est que tu parles couramment espagnol et anglais. Si tu parles allemand, c'est un plus. Et ces entreprises te fournissent un ordinateur pour que tu puisses travailler à distance, chez toi ou ailleurs. Dernièrement, j'ai vu passer beaucoup d'offres d'emploi qui précisent que les postes sont entièrement en télétravail. C'est très recherché.
Et avant la crise, il n'y avait pas autant d'offres comme ça en télétravail ?
À vrai dire, je ne sais pas très bien. Moi, j'ai entendu parler du télétravail pour la première fois quand j'ai commencé à voyager et à rencontrer des personnes qui travaillaient pendant leurs vacances. Ça me paraissait être une vie de rêve. Mais j'avais l'impression que ça ne pouvait fonctionner que pour une minorité de personnes et que tous les métiers n'offraient pas cette possibilité-là. Ensuite, quand est arrivée la pandémie, beaucoup de personnes ont commencé à travailler depuis chez elles et je crois que l'habitude est restée. Certains employeurs ont réorganisé le travail en interne de manière à ce que les salariés n'aient plus à se déplacer jusqu'au bureau. Et en fin de compte, je crois que c'est plus rentable pour beaucoup d'entreprises parce qu'elles dépensent nettement moins, elles n'ont plus à payer les loyers ni les services de nettoyage. À moyen et à long terme, ça fait la différence économiquement parlant. Il y a beaucoup de gens qui se sentent à l'aise avec le télétravail, mais en même temps, personnellement, je crois que ça dépend du type de travail que tu exerces. Parce qu'il y a des gens qui travaillent encore plus et qui s'épuisent à télétravailler.
Et tu te vois travailler ici, dans cette chambre qui doit faire peut-être entre 5 et 8 mètres carrés, sans bureau, sans collègues ?
Creo que sí, porque me siento muy cómodo en mi casa.
Je crois que oui, parce que je me sens très bien dans mon appartement et encore mieux dans ma chambre. C'est un endroit que j'ai aménagé, auquel j'ai ajouté ma petite touche personnelle, donc je me sens très à l'aise ici. Ensuite, je pense que je n'ai pas de problème à travailler sans collègues parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé dans des bureaux et je crois que ça ne me dérange pas d'être seule. Ça me correspond plutôt bien. Je crois vraiment que le télétravail est une opportunité pour moi parce que ça me donne la possibilité de voyager, de me déplacer. De fait, je ne suis pas obligée de travailler seulement depuis ma chambre, même si j'y suis très bien. Je peux choisir où je veux être. Ça m'offre une grande liberté. Moi, je suis venue en Europe, pas uniquement pour y vivre, mais aussi parce que je voulais découvrir le continent, apprendre de nouvelles choses, visiter de nouveaux endroits. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu le faire comme je voulais pour des raisons économiques, mais aussi à cause de la pandémie. Tout a été plus compliqué. Aujourd'hui, je crois que le télétravail va me permettre de découvrir le monde tout en continuant de percevoir des revenus. Donc, il me semble que ce n'est pas seulement le futur, mais plutôt le rêve de tout le monde.
Laurence Bretan, en écoutant le témoignage de cette jeune femme, hein, Constanza, on se rend compte qu'elle aborde tous les aspects du télétravail, tous les aspects classiques, s'organiser comme on souhaite, rester chez soi. Et on se rend compte surtout qu'elle peut quitter ou rester à Madrid pour travailler.
Oui, merci. C'était finalement très intéressant, mais on va quand même mettre tout de suite un point. En fait, elle n'avait pas de travail. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment une embauche dans un cadre très particulier.
Oui.
Donc là, on n'est pas dans le cadre de salariés qui sont passés au télétravail. Moi, ce que j'ai relevé, c'était effectivement, en tant que DRH, la question de l'environnement de travail. C'est bien parce que la journaliste a bien posé la question. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on a une responsabilité. Et à une époque où, dans nos accords de télétravail, on mettait effectivement que le CHSCT de l'époque pouvait aller visiter les personnes. Là, aujourd'hui, vous voyez, vivre dans 5 à 8 mètres carrés, déjà, on a vu les risques pendant cette pandémie. Quand les familles étaient en vase clos.
Les familles avec enfants surtout.
Avec enfants surtout, avec la condition de la femme, surtout dans la cuisine avec les enfants. Ça aussi, c'est un point, ça a été une régression. L'équilibre vie pro-vie perso, et puis la responsabilité d'employeur, là, on n'en parle jamais, mais en réalité, elle dit qu'elle peut aller partout. Oui, mais si elle a un accident un jour, en fait, je ne connais pas le droit espagnol du travail, mais en France, si vous voulez, il y a quand même des problématiques de responsabilité en cas d'accident de travail. Il y a accidents de trajet qui sont à voir. Et puis après, ce qui manque, on l'a entendu, mais en fait, comme elle n'avait pas d'activité jusque-là, on va dire dans un cadre particulier.
Elle rentre là dans le
voilà,
milieu
ça va
de
être
travail.
Voilà, ça va être le problème, si vous voulez, de la montée en compétences. Nous, on l'a vu pendant cette crise Covid, avec les nouveaux entrants, surtout les plus jeunes, comment les intégrer, comment leur donner le sens des valeurs, même leur transférer, parce que ça, c'est important. Et puis, il y a une chose qui m'a alertée, et c'est vrai, que c'est un point, on a eu quand même pas mal d'études, que ce soit d'Ipsos ou de la DARES, la question de la solitude, de l'anxiété des personnes, d'isolement. Oui, et là, l'enquête pour Davos a quand même montré que plus de 40% des personnes avaient ressenti un sentiment d'anxiété et de solitude. Et puis, elle a dit, mais en toile de fond, c'est le problème de la déconnexion. Et là, l'étude de l'adresse qui est parue en mai dernier insiste bien, on a à peu près 10% de personnes qui ne savent pas se déconnecter et font des horaires extensibles.
Et ça travaille jusqu'à pas d'heure.
Voilà.
Alors Aurélie Gentet, une réaction par rapport à ce témoignage que vous avez écouté avec nous ?
Oui, alors ça charrie effectivement beaucoup de questions. Oui. Comme on a commencé à les pointer... C'est quand même aussi ce qu'on traverse là avec le télétravail qui s'est généralisé, alors effectivement à certains métiers, hein, mais quand même, on assiste à un questionnement de la place du travail dans nos sociétés, avec cette idée que peut-être ça ne devrait pas occuper une place aussi centrale que ça l'a été ou que ça l'est toujours, mais que ça pourrait être une sphère d'investissement parmi d'autres, au même titre que d'autres. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est en mouvement en ce moment, de tous les côtés, en fait, hein, du côté des managers, du côté des salariés, avec cette revendication de plus d'équilibre entre les différentes sphères de la vie sociale. Donc c'est intéressant parce que ça rapatrie dans le champ du travail, c'est-à-dire dans le temps de travail, dans l'espace de travail, la question de prendre soin de soi, du confort, de la conciliation avec les autres sphères de la vie, quand on est parent, par exemple, etc. Oui. Donc, c'est très intéressant, toutes ces questions qui se posent. Et on a certainement à gagner à mettre aussi plus d'émotions, de soins, de care dans le travail, c'est-à-dire à faire circuler aussi ces deux sphères.
Même sur tous ces plans, on se rend compte que ça a aussi accentué ou renforcé certaines inégalités.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça comporte effectivement beaucoup de risques. Il y a des inégalités hommes-femmes, hein, vous l'avez pointé, entre classes sociales aussi, entre conditions de vie, de travail, et aussi selon les parcours, les métiers, les personnalités. On n'est pas tous aptes de la même façon, effectivement, à supporter cet isolement. Oui. Et ça pose des vrais problèmes en termes de qualité du travail et des conditions de travail. On a pointé la transmission, mais il y a aussi la question, effectivement, tout ce qui relève de la subtilité des relations sociales, de la rencontre, de la régulation des rapports, pour que, justement, il n'y ait pas de violence, etc. Et l'absence du corps... Quand on est uniquement dans le télétravail, est effectivement très problématique.
Tout à l'heure, vous avez un peu abordé la question, Laurence Breton, quand on travaille chez soi et quand on travaille au bureau, c'est pas pareil. Là, dans le témoignage, elle dit qu'elle travaille dans son petit espace, ça lui convient, mais on ne peut pas vraiment travailler, on n'est pas productif de la même manière.
Oui, tout à fait. Alors là, on est quand même dans un métier très particulier qui est le métier du numérique ou du digital, donc qui est vraiment un cas... Nous, aujourd'hui, d'ailleurs, la position de la NDRH est de dire que c'est au maximum 2 jours de télétravail par semaine, justement pour cette question de lien social. C'est excessivement important. Et puis aussi pour voir comment cela peut se passer. C'est vrai que quand on entend ces conditions de travail, on voit aussi beaucoup cette question des tiers-lieux et vous parliez d'inéquité. Il faut savoir quand même qu'il y a 60% des salariés en France qui ne peuvent pas télétravailler. Oui. Donc ça veut dire qu'on a 40%...
Ça concerne quand même une minorité, hein, des cadres, voilà. C'est des privilégiés si on peut le dire.
Pas que des cadres, hein, parce que toutes les personnes qui sont effectivement dans des métiers, on peut travailler à distance. Mais je rappelle que là, c'est une circonstance exceptionnelle, donc on a dû mettre des personnes à 100% en télétravail, ce qui est un télétravail, on va dire, forcé quelque part par les événements, parce qu'un vrai télétravail, un accord tel qu'on l'entend, ça demande l'accord des deux parties, à la fois de l'entreprise et du salarié. Il faut que le métier, d'une part, soit éligible et que la personne ait le comportement ad hoc. Je vais vous citer 2 extrêmes.
Oui.
Personne qui, elle, ne sait pas se déconnecter. Et en cela, d'ailleurs, avoir des enfants, ça privilégie, on va dire, la santé, parce que la personne est obligée de se lever, elle est obligée de sortir, etc. Donc, vous avez des personnes qui restent tout le temps connectées. Et puis, à l'inverse, vous avez des personnes qui peuvent être très bien dans des sites professionnels et qui, chez elles, ne savent pas se concentrer. Donc, on a les 2 extrêmes. Et donc, c'est aussi, pour nous, dans les entreprises, une révolution des pratiques de management. Ça a été un point important où on a dû accompagner les managers, puisque aujourd'hui, ils ont dû travailler beaucoup en mode hybride, hein, qui est le grand mot de du moment. Voilà. Donc, en fait, des changements à réaliser, mais aussi, et ça, je suis d'accord avec Aurélie, de toutes les évolutions. Et on a redonné effectivement le sens au travail et voir un petit peu cet intérêt d'être ensemble et du collectif.
Nous avons une auditrice qui souhaite partager avec nous son expérience du télétravail et elle nous appelle de la Suisse. Bonjour Lisa. Lisa n'est pas, elle nous entend pas. Bonjour.
Si, je vous entends. Allô?
Allô, bonjour, bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup.
Vous, vous avez eu 3 expériences en télétravail, on vous écoute.
Oui, alors ma première expérience, elle date de 2014. C'était juste après mon accouchement. Donc après le congé maternité, on a négocié un télétravail.
Oui.
Et puis, donc c'était quelque chose de nouveau, ça s'est passé au Togo, c'était pas du tout commun. Et ça s'est assez bien passé. La deuxième fois, c'était aussi après un accouchement.
Oui.
Et puis, même situation. Et puis maintenant que je suis en Suisse, donc je fais aussi du télétravail. Alors ça, c'était depuis le début déjà, quand j'ai signé mon contrat, c'était déjà pour un poste en télétravail.
Et qu'en avez-vous pensé du télétravail, de cette organisation?
Alors, en fait, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup aidée par rapport à la famille, d'être un peu plus présente, pouvoir jongler avec mes heures. Voilà, par exemple, je peux accompagner ma fille au cours de natation. Et puis, ces heures où je n'ai pas travaillé, ben, je peux travailler le soir tranquillement quand ils sont couchés.
Oui.
Donc, pour moi, c'était plus pratique.
Mais ça veut dire que vous ne décrochez pas. Allô, Lisa, on l'a perdu, on a perdu...
Allô,
vous nous entendez?
Oui, oui, je vous entends. Oui, alors c'est vrai que je ne décroche pas tout le temps, mais même, par exemple, quand on cuisine, ben, on est en train de bosser un dossier dans notre tête et c'est un peu difficile de décrocher, oui.
C'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, Laurence Breton.
Oui, tout à fait, parce que là, on voit un petit peu le droit du travail français. On doit avoir 11 heures de repos entre 2 plages horaires. Et c'est vrai qu'on est déjà confronté à cette situation où on a, dont même les personnes sur site, qui partent plus tôt et qui vont se remettre à travailler le soir. Donc en fait, aujourd'hui, il va falloir faire évoluer les choses. Moi, j'ai été, quand vous parliez, c'était intéressant, après l'accouchement du télétravail, parce que nous, on le donne plutôt avant l'accouchement, pour que la personne évite les transports en commun. C'est vrai, oui, qu'on a des adaptations sur les temps de trajet, s'il peut permettre. Parce qu'effectivement, après l'accouchement, quand il peut y en avoir, nous, on a toujours des points très précis qui est demandé que l'enfant soit gardé. Voilà, pour permettre effectivement l'activité dans la journée, pour éviter justement que la personne travaille tout du long, un petit peu comme l'exemple, le soir ou à certains moments de sieste. Donc on a quand même quelques règles qui sont également pour concilier la famille et le travail.
Lisa, vous êtes encore avec nous?
Oui.
Vous, oui, vous travaillez mieux chez vous ou au bureau? Même si vous êtes plus flexible?
Oui, ça dépend. Par exemple, hier, j'étais au bureau et il y avait un dossier à régler. Et c'est vrai que je l'ai réglé beaucoup plus rapidement parce que mes collègues étaient là. Je pouvais les consulter tout de suite. Mais question concentration, je préfère être à la maison, m'isoler dans ma bulle et puis pouvoir gérer mon agenda et mon travail.
Oui. Et vous avez, après ces 3 expériences de travail, vous êtes prête à retourner au bureau ou vous préférez 100% télétravail du coup?
Alors, pas 100%, mais comme je fais maintenant au moins une fois dans la semaine une présence dans le bureau,
oui,
une réunion, rencontrer des collègues, ça me convient parfaitement.
Merci beaucoup, Lisa, pour votre témoignage.
Merci beaucoup.
Nous avons un autre auditeur de la Guinée-Conakry. Chris Mas, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Bienvenue dans notre émission. Vous avez commencé le télétravail il n'y a pas très longtemps, après 2 mauvaises expériences en travail en bureau. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous.
Alors, merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Et pour dire, c'est la toute première fois que je participe à votre émission. Alors,
merci.
Voici comment ça s'est passé. J'ai déjà eu des expériences par le passé qui n'ont vraiment pas marché. Et au côté employeur, c'est des engagements qu'ils ont pris qui n'ont vraiment pas respecté. Et de mon côté, c'est vrai que je ne suis pas marié, mais il y a aussi des choses qu'il fallait faire dans la vie. Donc, il fallait prendre des décisions vraiment très importantes. Aujourd'hui, je travaille en télétravail et je travaille en décalage horaire parce que l'heure de l'Afrique et l'heure du Canada sont complètement différentes.
Il faut préciser que vous travaillez pour une entreprise canadienne, hein, c'est ça?
Oui, oui, c'est bien ça. Alors, je viens de quitter mon boulot il y a à peine 2 mois. Et j'ai commencé à travailler en télétravail. C'est une expérience vraiment différente de celle de Lisa qui vient d'intervenir tout à l'heure.
Oui.
Moi, mon cas, c'était déjà de travailler et puis c'est une première expérience pour moi. Je m'y trouve bien dedans parce que je n'ai vraiment pas de complications. OK. Où mon travail, je travaille à la maison et je peux me déplacer, aller quelque part où j'ai un petit bureau également, je travaille.
Mm-hmm.
Et pour les réunions également, c'est tout bien informé des réunions et je prends des dispositions pour pouvoir rester dans un endroit tranquille et avoir une très bonne connexion pour pouvoir travailler tranquillement.
Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous travaillez à un horaire décalé, hein. Vous travaillez sur les horaires du Canada.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Comment ça se fait dans la pratique?
Alors, vous savez, je suis déjà quelqu'un qui s'habitue facilement, je m'adapte très facilement. Et je suis d'avis avec ce que Lisa disait tout à l'heure. Mais pour moi, c'est complètement différent. Moi, je m'élève principalement à 6 heures pour écouter la radio.
Oui. Et vous commencez à travailler à partir de quelle heure?
Je commence à travailler normalement à 12h30 heure de l'Afrique et 8h30 heure du Canada.
Oui. Ça fait 14h30 ici, hein.
C'est 12h30. Ah, oui. Il est chez moi.
Oui. Et vous avez combien d'heures de travail dans la journée? Vous finissez à quelle heure?
Dans la journée, je travaille de 12h30 à 20h00, heure de la Guinée.
Ça fait 22h à Paris. Et là, on voit Aurélie, Aurélie Jantet, que quand on s'adapte aussi, la délocalisation montre qu'il y a d'autres contraintes. Ça peut être considéré comme une contrainte selon les personnes, mais là, il arrive à s'adapter avec ces horaires-là. Ça peut être beaucoup plus compliqué pour d'autres personnes.
Oui, bien sûr. Ça, c'est le problème du travail en horaire décalé. Voilà, que ce soit en télétravail ou en présentiel, c'est le problème de la désynchronisation des temps sociaux. Effectivement, par rapport au reste de la société, à sa famille, à ses amis, à ses voisins, etc. Donc effectivement, ça peut accroître encore le sentiment d'isolement. Surtout que là, on voit qu'effectivement, c'est d'après ce que je comprends, du télétravail à 100%. Voilà, du coup, c'est vrai que l'expérience qu'on a faite du télétravail, on a pu voir qu'il y a des tas d'outils assez géniaux qui nous permettent de faire des réunions à distance, de se voir. Alors à peu près, on ne se voit pas comme en vrai, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Mais il y a des formes quand même de présence. Il y a des formes, il y a des outils de collaboratifs. Il y a des tas de choses, en fait. Il y a une diversité, une palette assez grande. Donc voilà, donc c'est effectivement chouette de pouvoir disposer de ça. C'est un plus. Après, il faut tirer aussi un bilan, un peu plus nuancé de qu'est-ce qu'on gagne avec le télétravail. Donc on peut gagner effectivement un certain confort, on peut gagner en termes de déplacement, la planète peut y gagner aussi en termes écologiques, peut-être les entreprises en termes de bureaux, etc. Mais aussi qu'est-ce qu'on perd? Et donc il y a un bilan qui est en train d'être fait, mais qu'il faut poursuivre pour essayer de
qu'est-ce
voir...
Qu'est-ce qu'on perd? Les relations humaines par exemple?
Par exemple, tout ce qui fait la richesse, la subtilité des relations humaines. Parce que par exemple, travailler à distance avec un collègue qu'on connaît déjà, c'est une chose. Mais avec un collègue qu'on ne connaît pas, on ne va pas du tout tisser les mêmes liens, on ne va pas se dire les mêmes choses. Il y a un problème aussi de confiance.
C'est le cas de cet auditeur. Christmas, vous avez une collègue qui travaille aussi en télétravail depuis le Sénégal.
Oui, c'est bien ça. D'ailleurs, on a toujours le contact, on échange très bien. Et puis, quand il y a des soucis de mon côté, des choses que je ne comprends pas facilement, je la contacte par téléphone, WhatsApp. Et puis, on échange comme ça, rapidement.
Mais vous ne l'avez jamais rencontré physiquement?
Non, pas du tout.
D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à l'émission. Et très bonne journée à Conakry.
Je vous en prie. Merci à vous.
Et là, on en vient aux relations avec les collègues, ce qu'on se dit, comme vous étiez en train d'expliquer, ce qu'on ne se dit pas. Là, il a l'air mieux de se sentir dans ça. Est-ce que c'est quelque chose sur le long terme qui peut être psychologiquement difficile pour les salariés?
Oui, voilà, c'est la question aussi de la durée. Là, apparemment, c'est assez récent. Qu'est-ce que ça donne dans le temps? On a parlé de l'action des compétences, la transmission, qui vraiment est problématique quand on n'est pas... dans des formes de coprésence à certains moments. Il y a le problème des collectifs, en fait, du travail collectif qu'on arrive à forger et donc de toute la régulation que peut opérer des collectifs, c'est-à-dire pour édicter des façons de faire qui sont communs pour s'autoriser à travailler de telle ou telle manière, pour s'inspirer de la façon dont les autres travaillent. Donc, le travail, c'est un apprentissage un peu permanent. Et voilà, si on reste seul, il y a quand même beaucoup de choses qui passent à côté. Voilà, le problème de la confiance, parce qu'on a quand même aussi, on n'a pas dit, mais bon, qu'il y avait en France, en tout cas, on n'était pas du tout préparé à un télétravail aussi massif. Mais
personne n'était préparé. C'était non. Une expérience hein, voilà. Pour le monde entier de se lancer dans le télétravail.
Il y a une certaine suspicion aussi, oui. En fait, voilà, comment est-ce que les salariés vont travailler assez. Et donc, il y a une tendance aussi du management à augmenter la charge de travail. Et donc, effectivement, les problèmes de déconnexion que Laurence pointait, en disant, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Alors, effectivement, il y a peut-être des gens qui ne savent pas, mais il y a aussi une régulation, l'intensification du travail hein, qui n'arrive pas à se faire. Et quand on est tout seul à subir ça, c'est beaucoup moins facile que quand on est plusieurs et qu'on se dit, mais attends, c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Comment répondre? Qu'est-ce qu'on va faire? Etc.
Et Laurence Breton, est-ce que les DRH ont fixé des conditions pour les salariés pour télétravailler ou pas?
Alors, on encadre effectivement le télétravail. Alors, pendant cette période, on va dire, de l'année passée, en 2020, c'était un peu particulier parce qu'on avait le confinement qui venait avec le télétravail. Donc, on a eu quand même à gérer. Alors oui, on a fixé des règles, notamment maintenant, puisqu'il y a signature de nombreux accords. Hein, France, il y a de nombreux accords qui ont été faits ou des chartes pour effectivement, maintenant qu'on n'est pas revenu à la normale, mais qu'on s'en rapproche, c'est effectivement mettre des règles et bien parler d'un vrai télétravail, alors qu'avant, c'était un télétravail contraint. Donc, ça demande tout un dialogue, mais aussi on se rend compte que certaines personnes, il y a de nombreuses pathologies. Hein, nous, on a travaillé aussi sur les addictions. Vous avez des personnes qui ont développé des addictions à l'alcool, aux médicaments, voire au jeu, enfin voilà, surtout les personnes qui sont seules. Donc d'ailleurs, pour nous, les DRH en France, au second semestre 2021, on a mis en numéro un la santé, qualité de vie au travail, parce que c'est vraiment un enjeu. Les personnes, on a vu tous une progression de nos taux d'absentéisme. Oui. Les personnes ne vont pas bien et ce n'est pas dû au travail, hein, c'est dû au contexte. Et puis, si on doit rester dans le télétravail, eh bien, il faut des règles. Il faut éviter effectivement l'hyperconnexion, mais c'est aussi arrêter de remplir nos agendas. Et puis moi, ça me manque, les voyages, de rencontrer mes collègues à l'autre bout du monde de temps en temps, parce que travailler en horaire décalé, voilà, je fais partie de ceux qui ont parfois des réunions internationales, eh ben, oui. Ça donne la nuit, quoi. Voilà.
Et avant de poursuivre tout de suite, une pause en douceur.
One change my people say no waiting. No waiting. African people say no waiting. No waiting. Everybody let me hear you say no waiting. No waiting. If you want the good things, you must wait and see. Yeah, we want what we want today, today. If you know freedom cannot wait, say no waiting. No waiting. If you know justice cannot wait, say no waiting. If you know the people cannot wait, say no waiting. No waiting. If you know climate cannot wait, say no waiting. No waiting. Say no waiting. No waiting. Say no waiting. No waiting. No waiting. No waiting. No waiting. No waiting. Say no waiting. No waiting. Say no waiting. No waiting. Remind you that the Yaoundé government confuse dialogue and power show. That's why many thousand people die in anglophone place. No school for children. Many hundred village are born. People escape to the forest since 3 years now. That is trouble. Listen, no, no, no. Listen.
No Waiting, les frères Smith, collectif parisien de 11 musiciens chez 7 milliards de voisins. Et nous parlons du télétravail avec nos invités, Laurence Breton-Couenny, DRH, et Aurélie Jantet, qui est sociologue du travail. On s'intéresse maintenant au cas de l'Inde, un pays qui accueille depuis plusieurs décennies nombre d'entreprises étrangères, en particulier à Bangalore, où l'on retrouve notre correspondant Com Bastin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Cette ville est souvent surnommée la Silicon Valley indienne en raison des grands groupes numériques qui y ont élu domicile.
Oui, alors si la Chine a longtemps été désignée comme l'atelier du monde, l'Inde s'est positionnée un peu comme le back-office, l'atelier numérique du monde, et des entreprises étrangères ont externalisé leurs services clients, leur maintenance informatique, et puis petit à petit des fonctions plus complexes comme la gestion, le développement logiciel, la recherche, le développement. Dans le jargon, on parle d'outsourcing et ça emploie au moins 4,5 millions d'Indiens selon l'Association indienne des logiciels et services. Et comme vous le disiez, c'est particulièrement vrai à Bangalore. La ville est devenue un Eldorado, passant de 4 millions d'habitants en 2001 à 12 millions en 2021. Et ici, on trouve des sièges géants pour Google, Intel, Amazon, Cisco, IBM, Capgemini et aussi des champions numériques indiens comme Infosys.
On imagine que la pandémie a profondément marqué le marché du travail.
Oui, parce que de façon surprenante, toutes ces entreprises numériques qui sont parfois modernes dans leur façon de travailler, notamment aux États-Unis, elles avaient gardé une culture du travail très rigide en Inde. Donc des longues journées de boulot en présentiel, une pression du chiffre et du résultat exercé sur les salariés. Et en mars 2020, du jour au lendemain, tout Bangalore a dû apprendre à composer avec le télétravail et ça a été un choc. Non seulement il a fallu apprendre à évidemment travailler à distance, mais en plus avec beaucoup moins de salariés. Parce qu'en Inde, on vit généralement à plusieurs générations sous le même toit. Les jeunes couples s'installent traditionnellement dans la famille du mari où il y a parfois les grands-parents. Oui. Alors autant dire que lors de la terrible deuxième vague liée au variant Delta, de nombreux foyers se sont infectés entre eux, entre parents, enfants, grands-parents, et donc de nombreux employés ont manqué à l'appel, au moins 1/10, selon le Financial Times.
On en revient donc, comme Bastin, au thème de cette émission, la télémigration. Est-ce qu'une fois l'orage passé, une ville comme Bangalore pourrait, au contraire, profiter de la crise en attirant beaucoup plus d'entreprises étrangères qui ont réalisé que l'on pouvait faire pareil pour moins cher à l'étranger?
Alors à court terme, il est franchement tôt pour le dire. La violence de la pandémie en Inde et puis aussi les images qui en ont été données dans le monde ont fait fuir les investisseurs. Entre mars 2020 et mars 2021, le nombre de nouveaux clients pour Infosys, donc l'entreprise phare du numérique indien qui permet de délocaliser de nombreux services, le nombre de clients a été divisé par 3. La croissance de l'économie numérique, elle est tombée de 9% à 2%. Oui. On a même vu des centres d'appel indiens pour entreprises étrangères qui délocalisaient eux-mêmes dans des pays en développement moins infectés par le virus. Donc le boom de la télémigration qui est prédit par certains rapports français n'est pas encore là. Maintenant, si on se place à long terme, la donne peut changer parce que aujourd'hui le calme revient, l'économie numérique indienne marque un fort rebond avec peut-être une plus grande force pour le marché de l'outsourcing en Inde qui a adopté en fait par la manière forte ces modes de travail plus flexibles. Mmh. Et on voit des entreprises comme JP Morgan ou Credit Suisse qui annoncent déjà des milliers d'embauches en Inde dans le secteur des technologies. Et vu l'importance de la main-d'œuvre qualifiée en plus dont dispose le sous-continent, les spécialistes en ressources humaines sont très confiants pour l'avenir.
Merci beaucoup Com Bastin pour ces explications depuis Bangalore en Inde. Très bonne journée à vous.
À vous aussi.
Alors, Laurence Breton, on voit que la délocalisation virtuelle, ce n'est pas nouveau, mais là, ça risque de s'accentuer.
Oui, ça risque vraiment de s'accentuer parce que dans les points des évolutions que nous avons vues, on a vu notamment la mondialisation des compétences. On le savait, mais ça a été beaucoup plus fort avec effectivement le télétravail parfois qui est négocié à 100% avec les vrais risques de délocalisation. Je crois qu'il faut que tous les acteurs qui signent ce type d'accord le sachent. Après, il faut que ce soit fait en pleine conscience parce que ça a aussi des inconvénients. Il faut prêter attention que dès l'instant que le télétravail est à 100%, ça signifie qu'on est en concurrence mondiale sur certains postes.
Oui. Et les travailleurs français et européens, de façon générale, doivent-ils s'inquiéter de cette concurrence ?
En fait, la concurrence permet effectivement de stimuler les uns les autres. Ça veut dire aussi, quand on regarde dans la question du numérique, nous, on a des postes qui sont non pourvus en France et on a une criticité sur certains types d'emplois. Ça veut dire que nous devons également former. Et puis nous, en tant que DRH, nous devons prêter attention aux accords de télétravail que nous signons.
Alors, je me tourne vers vous, Aurélie Gentet. Vous avez entendu notre correspondant qui expliquait le cas de l'Inde, hein, qui est quand même différent aussi, même si là-bas, on avait déjà, les entreprises avaient déjà des délocalisations. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se généraliser?
Ça, je ne peux pas vous répondre. Parce que, voilà, ça, c'est des choses...
Ça pourrait séduire d'autres entreprises, peut-être?
Je ne peux pas répondre, moi, sur le futur. Moi, ce que je peux répondre, c'est sur des constats qu'on est en train de faire, sur le rapport au travail, sur l'activité, sur ce que ça questionne. Bien sûr qu'on pourrait aller plus loin dans le télétravail et que certainement, on ne va pas revenir en arrière, ça, c'est clair. Mais effectivement, je pense que l'option d'une hybridation entre travail, télétravail et présentiel est vraiment maintenant ce qu'on a considéré comme étant le plus souhaitable. Et que je pense qu'il faut en tenir compte et qu'il ne faut pas aller trop vite dans des changements qui risquent ensuite de poser plus de problèmes que ça n'en solutionne. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue en fait des études assez fines. Encore une fois, pour dresser le bilan, pour savoir dans quel cas aussi le télétravail et à quelles conditions il est efficace, il est pertinent, et dans quel cas, par contre, ça pose des problèmes, parce qu'on voit qu'il y a une dégradation non seulement du lien social, c'est-à-dire du rapport à l'autre, mais aussi du rapport au réel, en fait, c'est-à-dire au réel de l'activité. C'est quoi le sens de ce qu'on fait? Et ça, si on ne le tricote pas à plusieurs, ça peut laisser aussi les individus dans des formes de souffrance, de solitude. Et puis, donner un travail un peu hors sol, où ce qu'on fait, les finalités de ce qu'on fait n'ont plus vraiment d'importance. Et ça peut nous conduire aussi un peu à faire n'importe quoi.
Aurélie Gentet, mais c'est aussi une question d'argent pour les entreprises. Parce qu'il y a, par exemple, il y a une étude qui montre qu'il y a 7%, ça réduirait de 7%, par exemple, si les entreprises rendaient un travail sur 4 télétravailleurs, par exemple. Ça réduirait le coût de 7%.
Alors, moi,
ça pourrait les séduire, ça.
Oui, alors moi, je suis d'accord avec Aurélie sur le fait qu'on ne peut pas dire qu'on a vécu une expérimentation du télétravail parce qu'on est dans des circonstances exceptionnelles. Il ne faut pas aller trop vite parce que je vois parfois des gens qui se hâtent à changer l'environnement de travail, les bureaux, etc. Mm-hmm. Il faut prendre le temps de se poser. C'est perturbé, il faut répondre aux attentes de l'ensemble des salariés. On sait très bien qu'il y a des attentes pour 85% d'entre eux de voir effectivement le télétravail. Alors, pas forcément 2 jours par semaine, mais parfois 1 jour de temps en temps pour ceux qui n'ont pas de métier télétravaillable. Donc, prenons le temps de nous poser, de réfléchir et de ne pas nous hâter. Parce que là, on vit une période particulière. Il faut bien faire les choses, ne pas se hâter, mais quand même, donner des signaux. Et ça, c'est important parce que les attentes des salariés sont très fortes. Nos différents baromètres nous le montrent. Et puis surtout, bien travailler ensemble. Puis on peut quand même les remercier parce que dans cette période Covid, le télétravail a permis de sauver nos entreprises. Et puis aussi à nos partenaires sociaux qui ont joué le jeu. Et puis l'État en France, parce que si on n'avait pas eu l'activité partielle pour nous soutenir, ça aurait été très compliqué pour nous les entreprises et pour tous les salariés qui ne pouvaient pas télétravailler.
Et quel modèle inventer alors?
Alors le modèle inventé, moi non plus je ne suis pas prospectiviste, je dirais qu'en revanche on doit le travailler ensemble et que chaque entreprise est contingente. On ne peut pas faire la même chose dans une entreprise d'IT, il faut vraiment... Et puis, prêtez attention que tous les salariés, on l'a bien vu pendant cette période, n'étaient pas agiles dans le numérique. Donc là, on a fait une révolution, une transformation numérique. Mais nous devons faire attention qu'il y a encore beaucoup de personnes qui souffrent d'électronisme et ne pas aller trop vite pour laisser personne au bord de la route.
Et tout à l'heure, on parlait du CARE. Il y a l'environnement de travail. Et ça aussi, cet environnement-là doit être revu. Parce qu'on a parfois pris l'habitude de travailler dans son canapé.
Oh, quelle horreur. Quelle horreur.
Oui, oui. Est-ce qu'il y a des exigences sur ce plan par rapport aux salariés?
Si vous voulez, on le voit dans les accords qui sont négociés aujourd'hui, de demander des déclarations sur l'honneur aux personnes, qu'elles aient vraiment un environnement pour télétravailler. Voir certains accords fournissent des bureaux, chaises, ordinateurs. Mais voilà, parce que, et vous avez raison, pourquoi on parle beaucoup de santé, notamment les TMS, les troubles musculo-squelettiques, et plein d'autres choses, hein, encore, puisque les personnes sont sédentaires. Donc c'est à nous de prêter attention, et puis c'est une responsabilité collective. Je veux dire, chaque individu aussi doit se prendre en main. Je suis d'accord avec Aurélie sur le sens du travail. Le travail est important, mais pour bien faire son travail, il faut être bien aussi dans son corps et dans sa tête. Donc prendre soin de soi. Et le care, voilà, c'est aussi prendre soin des salariés. Et pour nous, les DRH qui avons vécu cette crise aussi, prendre soin de nous, parce que voilà, parfois on le rend compte, des cadres, les dirigeants ont du mal aussi. Et s'ils ne prennent pas soin d'eux, ils auront du mal à prendre soin des autres.
Aurélie Janté, prendre soin de soi, c'est aussi aménager un espace chez soi pour pouvoir travailler, ne pas rester dans son canapé ou dans son lit pour travailler.
Non, moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Tout est bon à prendre si oui. Ça nous convient. Enfin, je pense que voilà.
Mais c'est pas la même productivité. Est-ce qu'on est d'ailleurs productif quand on travaille chez soi, dans son petit confort, que quand on va sur site au bureau, par exemple?
Ah ben, on peut l'être plus, oui. On peut l'être plus parce que. En fait, au bureau, alors après, évidemment, là aussi, ça va dépendre de comment on travaille. Mais oui. Dans les open space, on est tout le temps dérangé par le bruit, les conversations à côté, etc. Donc, les capacités de concentration pour certains travailleurs sont optimisées quand on est seul chez soi. Alors, à l'inverse, bon, pour certains qui disposent d'un bureau et qui se retrouvent, par contre, chez soi, au milieu d'une famille, sans espace pour s'isoler, c'est le contraire qui se passe. Mais vous voyez que, bon, effectivement, tous les cas sont différents. Donc, c'est un peu difficile de tirer comme ça des lois générales. Oui. Mais je ne pense pas qu'il faille... qu'il y ait de jugement, on peut être très productif dans son canapé ou dans son lit. Ça n'est pas ça le problème, en fait. La question, c'est celui quand même, effectivement, de l'isolement. Je reviens là-dessus, parce que la question de se concentrer, de pouvoir se concentrer, c'est une chose, et c'est vrai que c'est important de le faire par moment, de pouvoir se couper un peu des autres, mais on ne peut pas être tout le temps coupé des autres.
Permanemment, on ne peut pas être coupé des autres.
Couper des autres tout le temps, c'est effectivement, vous parliez de la santé, la question de la santé, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, par exemple, quand on a des mauvaises positions et quand il y a un travail extrêmement intense, répétitif, etc., et on peut se faire des douleurs et des problèmes importants. Mais il y a aussi toutes les pathologies du lien, en fait, qui font que, à un certain moment, si on arrête de voir d'autres gens, si on arrête de discuter de ce qu'on fait, d'être parfois dérangé, effectivement, par un collègue qui nous dit « Allez, tu viens prendre un café ?» Bah oui, on va prendre un café.
On n'a plus tout ça.
Et si on n'a plus aussi des retours du réel, c'est-à-dire un étudiant qui baille, un client qui dit « Mais non, c'est pas du tout ça que je voulais. » Enfin, si on n'a pas tous ces retours-là, on peut être effectivement dans des formes de pathologie. Là, il y a aussi la pathologie du lien, la peur de l'autre et le fait de prendre son chez-soi justement comme un refuge qui nous coupe des autres.
Et on a un dernier auditeur, bienvenue, qui est au Cap, en Afrique du Sud. Il va nous parler de son expérience du télétravail. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, 7 milliards de voisins.
Vous êtes en télétravail, racontez-nous comment ça se passe pour vous.
Oui, je suis en télétravail, ça fait pratiquement depuis le début de la crise sanitaire. C'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile.
Oui.
Mais avec le temps, j'ai quand même eu à prendre de l'habitude. Quand je dis au début, c'était difficile, alors, c'est parce qu'il y avait un peu les collègues de travail qui pouvaient me manquer. Et l'assistance aussi de certains superviseurs qui me manquaient aussi parce que aussi longtemps que les superviseurs sont autour de toi, comme avec ce que je fais, je suis en design, je suis un designer. Et l'assistance des autres, c'était quelque chose qui peut vous permettre rapidement à vous rattraper avec la situation qui peut peut-être t'arrêter et à pouvoir avancer dans le travail ou le projet que tu es en train de travailler.
Et l'entreprise qui vous emploie est en Afrique du Sud ou dans un autre pays?
Non, c'est dans un autre pays, une entreprise qui s'est implantée en Afrique du Sud. C'est plutôt une entreprise qui est anglaise.
Oui.
Et du coup, c'est implanté ici et tout se passe ici. Et les heures de travail aussi, c'est les heures de travail de l'autre pays.
Mais vous aviez eu à travailler avec des collègues physiquement?
Oh, physiquement, bien sûr. Tout le temps que j'ai été au bureau, c'était avec les collègues. Ouais.
Merci beaucoup. Bienvenue pour votre témoignage et très bonne journée à vous.
Merci infiniment. Bonne journée à vous aussi.
Merci beaucoup. Alors, Laurence Breton, tout à l'heure, on parlait de productivité, des alternatives qu'on pourrait mettre en place. On sait que Google a, par exemple, décidé de rémunérer ses salariés en fonction de leur lieu de résidence. Cela voudrait dire quoi? Qu'on sera moins payé si on choisit de travailler, par exemple, en Afrique ou aux États-Unis ou en Europe?
Alors, ça c'est on sait.
C'est
très
le
bien.
Dernier mot.
Oui,
hein, donc,
oui,
voilà.
Oui. C'est bon. En fait, vous le voyez bien. Tout dépend dans les entreprises. Si on a des contrats locaux ou si sont des contrats français, donc c'est pas la même chose. Mais on peut avoir une interrogation, non pas sur la localisation, mais les frais de transport en France, parce que ça c'est une autre question, puisque aujourd'hui le droit tel qu'il est fait, chacun peut déménager où il veut et nous devons prendre 50%, voilà, des charges des transports en commun, avion, enfin plutôt train. Etc. Oui. Donc cette question du salaire pourra un jour se poser, mais je rappelle que notre deuxième sujet des DRH, c'est la responsabilité sociétale.
Oui.
Donc il faut quand même veiller à la juste rémunération. Et puis c'est pas la même chose d'avoir des salariés qui sont des contrats et que vous voulez faire évoluer, puisque ce sont des évolutions de contrats, que d'avoir des recrutements locaux, comme les cas que l'on a vu, où là effectivement souvent il y a des, on va dire, des adaptations par rapport effectivement au pays considéré. Donc voilà, en revanche, ça fait couler de l'encre. Ça, effectivement, on en a parlé parce que le niveau de vie, même Paris-Province, on voit bien les différences.
Pas pareil. Dernier mot, Aurélie Jantet, la proposition de Google, ça sera encore une autre inégalité entre les salariés des différents pays qui travaillent quand même pour la même entreprise.
Oui, alors j'ai pas regardé en détail, j'ai pas d'avis spécifique.
Qui vont payer les salariés en fonction de leur lieu de résidence.
Oui, oui, mais
ça veut dire que certains seront mieux payés que d'autres.
Oui, enfin c'est déjà le cas quand on travaille dans certains pays, on est moins bien payé que dans d'autres pays. Après voilà, si c'est indexé sur le coût de la vie, c'est pas ça qui me semble le plus problématique ou choquant. Moi encore une fois, c'est plutôt ce qu'on perd, mais ce qu'on perd tous, c'est-à-dire en étant en télétravail à 100%. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche, en fait? C'est quoi qu'on vise, en fait, comme production? Et il me semble qu'effectivement, la question de la coopération, du soutien et de la régulation, je pense, sont essentielles comme problématiques à poser.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Aurélie Jantet, sociologue du travail, et Laurence Breton-Couigny, vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Merci à toutes les deux d'être venues dans ce studio.
Merci.
Merci à l'équipe, Romain Dubrac, Guillaume Buffet, Juliette Bro, Delphine de Dianous, Chantal Leroux vous retrouve demain et je vous dis au revoir, tout en musique, Digging de la chanteuse néerlandaise Kovacs. There's something to know. I'm not like others, this needs to go slow. Got things on my mind. Visions to make and gold dust to find. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No spark, starting to doubt. I've got the feeling that this won't work out. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. Well, I'm digging. Need to grow, have to push. Flicking through vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, I'm digging. You know, sorry baby, I'm digging. To find gold, need plenty of souls. And everyone needs that separate goal. This path makes me inspired. They have the flame. The stories I'm told. I'm near in finding the sound. Don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push. Flicking through vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that one.
7 milliards de voisins, c'est fini.